L'âge bête sur RCN.
Bienvenue dans l'âge bête sur RCN, il est 14h, nous sommes mercredi 16 octobre. Cette émission est enregistrée depuis Pont-à-Mousson au lycée Marquette. Bonjour tout le monde.
Salut.
Comment vous allez aujourd'hui?
Moi ça va bien et toi?
Ça va, c'est mercredi, c'est cool. Bah, je vais vous demander vos chroniques. Donc aujourd'hui, Elsa, tu vas nous parler des Amazones du défilé Dior. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Ce sera les Amazones contemporaines, spécial mode.
Ok, bah, ça va être intéressant. Et ensuite, Tess, tu vas nous parler de quoi aujourd'hui?
Je vais vous parler de l'histoire des sœurs Overstegen.
Tu nous en diras plus. Ensuite, on écoutera Antonin faire son quiz comme d'habitude.
Et voilà, une petite bande-son aussi d'un film de cinéma qui sera très facile à deviner.
Ça sera super intéressant. Et pour finir, on aura Margot. Quel est ton sujet du jour?
Moi, je vais parler des spécialités d'automne aujourd'hui.
Et bah super, restez avec nous. Nous sommes ensemble jusqu'à 14h30.
RCN, l'âge bête.
Donc Elsa, comme je l'ai dit, tu vas nous parler des Amazones du défilé Dior aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Et du coup, je vais vous parler du contexte historique en premier temps. Et puis, je vous parlerai du défilé parce que c'est de ça que je parle, de la mode.
Trop bien.
Donc, oui, je vais vous en prendre quelques contextes historiques. Donc, les Amazones, donc, c'est un peuple mythologique grec du 8e siècle. Est-ce que vous connaîtrez une Amazone? Elle est plutôt connue.
Ah, pas vraiment.
Non, pas du tout, je connais pas du tout.
Bah, c'est Jeanne d'Arc. C'est Amazone médiévale. Exactement. Je vous en apprends quelques informations aussi. Alors, du coup, donc, les Amazones, c'est un personnage de fiction, mais la théorie, c'est une réelle existence. Enfin, c'est prouvé par quelques faits. Par exemple, on peut en connaître parmi les œuvres historiques en Afrique du Nord-Ouest, en Libye ou alors dans les îles Canaries.
Donc ça a réellement existé?
Il se peut, vraiment.
Bah moi, je pensais que les Amazones, c'était en Amérique du Sud, donc vraiment pas en fait.
Il y en a en Amérique du Sud, j'ai regardé
il y en a un peu partout,
recherches.
Je crois.
Ouais, mais pas principalement, du coup.
Il y a eu des traces ou des faits là-bas.
Ok.
Donc, je vais vous apprendre quelque chose. En fait, les Amazones, c'est un peuple de femmes guerrières. Vous voyez, elles sont super fortes, courageuses.
L'image des films.
Oui.
Vraiment, l'esprit féminin. Et dans cette société, c'est une société matriarcale, ça veut dire que la mère, c'est le chef de la famille, donc c'est que des femmes. Et je vais vous apprendre quelque chose. Pour vivre en société féminine, elles vont tuer les enfants mâles qu'elles auraient pu avoir avec le peuple voisin. Donc ça peut être tragique.
C'est violent. Hein.
Mais voilà, on reste sur un peuple féminin, que des femmes, et elles peuvent prouver qu'en étant que femmes, elles savent se battre. Je vais vous montrer pourquoi.
Oui.
Parce que les femmes, elles se brûlent le sein gauche pour ne pas être gênées par l'épée qu'elles tiendraient.
Ah ouais,
c'est
vraiment
à ce point-là.
Pour se battre, ouais. Et elles ont les capacités pour, et elles sont prêtes à sacrifier une partie de leur corps.
Oui, bah c'est scarifié, quoi.
C'est vrai, là, c'est...
Et du coup, bah, on les reconnaît avec, vous savez, c'est comme des athlètes, des archers. Elles sont là avec leur arc, elles sont là à galoper avec leur cheval au combat.
Stylé, en vrai.
Mais moi, je vais vous parler plus de leur tenue, de leur style vestimentaire qui était repris dans l'art du mouvement, de la mode, etc. Je ne sais pas si vous avez su par les infos, mais il y a quelques semaines, c'était la Fashion Week à Paris.
Ouais, ça
j'ai vu.
Et nous avons eu le défilé Dior printemps-été 2025 qui, elle, a pris le thème des Amazones modernes.
Ça, j'ai pas vu.
Ah, c'était pas spécial 40 ans ou quelque chose comme ça?
Non. C'est juste le défilé de la saison.
Non, oui, j'avais vu un truc comme ça.
Il y a quelqu'un qui a vu le défilé ou...
Le défilé de Dior, non, j'ai pas vu. J'ai vu des extraits de quelques
gens,
mais non plus.
Je vous invite à aller le voir parce que justement, l'ouverture de la scène, elle est vraiment magnifique. On est dans l'obscurité. Nous avons les lumières qui s'éteignent, donc c'est le noir. Et puis nous avons un couloir avec une piste blanche. Et là, nous avons une athlète. Une athlète qui est... Attendez, j'ai son nom. Sag Napoli. Une athlète qui a ouvert le show en faisant des tirs à l'arc dès le début. Donc, c'est elle qui ouvre. Et là, on a les mannequins qui commencent à défiler.
Oh, stylé comme ouverture.
C'est super, ça a l'air super beau.
Et on a une musique de suspense qui est avec nous, avec le public, etc. Et c'est vraiment beau à voir. On a vraiment les 25 minutes du show. Donc, comme j'ai dit, le style vestimentaire des guerrières, donc le mythe de la femme forte, indépendante, qui inspire les couturiers dès 1970. Donc, ça a commencé le style-là très inspirant à l'époque. Donc, dévouée, guerrière indépendante, courageuse, intimidante. Donc ça, j'ai dit pièce sombre.
Il y a déjà plus de 50 ans.
Mais oui.
C'est ça dure.
En fait, c'est la tenue qui reflétait leur mentalité.
Oui, parce que, en fait, ils ont refait tout ça avec... donc, elles portaient des jupes, des sortes de maillots de bain pour se... Donc, c'était pas vraiment dénudé, c'était juste parce qu'elles devaient être dégagées des vêtements pour se battre, etc. Il fallait pas qu'elles
pour
se gênent.
Pour être à l'aise et tout.
Ouais. Parce qu'à l'époque, il y avait les grandes robes, les bouffantes tissus, etc. Donc, c'est pas agréable
pour se battre, c'est vrai que c'est difficile.
Non, vous voyez, donc vous imaginez, vous êtes sur le cheval. Et là, votre robe, elle vous gêne et vous tombez par terre. C'est pas crédible.
Non, ouais, c'est vrai
c'est pas crédible. Donc, sur le style, on a un assortiment de costumes revisités, des vestes, des chemises qui sont stylées différemment. On a les épaules qui sont dénudées. Les chemises, elles sont attachées avec des épingles. Enfin, je pense, mais c'est très beau à voir. Du coup, plus dans le visuabilité. Dans le visuel, aller voir les images, c'est mieux. Donc, on a les mannequins regard ciblés au fond, genre sur leur cible, ils sont en train de défiler. Leur tenue, c'est du dualité noir et blanc. On peut apercevoir des couleurs comme le rouge ou le vert. Très peu. Et tout ça a été créé par la directrice artistique Maria Grazia Cherry, une Italienne. Et... elle est incroyable, il faut vraiment aller la voir, regarder ce qu'elle fait aussi. Et du coup, je voulais vous partager une citation de l'athlète qui a ouvert le show. Elle nous dit « Avoir de la patience, c'est faire confiance à un processus, se fixer des intentions et des objectifs, avancer vers chacun d'entre eux en laissant lentement les mouvements se synchroniser avec vos muscles et votre esprit. » C'est tout ce que j'ai à dire.
On ira regarder le défilé, en reparlera peut-être la semaine prochaine.
J'ai une question, parce que je ne suis pas cultivée niveau mode.
Oui.
Dior, du coup, c'est italien ou pas?
Non,
parce
c'est
que
français.
Vu que là, la créatrice...
Ça a été créé par un artiste.
C'est comment qu'il s'appelle
Christian Dior.
Voilà, Christian Dior.
Ça, je connaissais, mais je ne savais
d'origine
pas.
D'origine Normandie.
Ok.
Ah oui.
Et du coup, il avait travaillé avec Yves Saint Laurent pendant une époque et c'est là où ça a été repris. Et maintenant, c'est devenu une autre couture énorme.
Oui, on connaît tous Dior, la marque au moins.
Voilà. Donc je vous invite à aller voir le show.
On ira voir. Merci.
Okay. Vidéo, etc.
Trop bien.
C'était super intéressant. Merci Elsa pour ta chronique. Et on va passer du coup à Tess. Tess, tu vas nous parler des sœurs Evergreen.
Oh là là.
Vas-y, dis-nous en plus, parce que le nom est déjà imprononçable.
Donc, on est en 1940 aux Pays-Bas. Donc, c'est les débuts de la guerre. On a Truus Overstegen, donc, qui a 16 ans, et elle va tomber nez à nez avec un soldat nazi qui va tuer un bébé devant son père. Et du coup, ni une ni deux, elle prend son arme et elle le tue.
Ça commence fort.
Voilà.
En fait, elle voulait le défendre un peu.
Oui.
Se venger, ok.
Oui, voilà. Voilà. Et du coup, elle a 16 ans, avec sa sœur Freddy qui a 14 ans, elles vont rejoindre très vite les rangs de la résistance. Elles vont avoir des tâches précises. Elles doivent mettre à l'abri des juifs, des dissidents politiques ou même des homosexuels.
Ah ouais, c'est pas des petites responsabilités. Hein.
Oui. Et à partir du moment où elle va tuer le nazi,
ouais.
Tout va changer. Elles vont être rejointes par d'autres femmes qui ne veulent pas rester passives à l'invasion nazie. L'une d'entre elles, ça deviendra une de leurs amies proches et l'une des plus célèbres héroïnes de guerre néerlandaises. Elle s'appelle Annie Schaft. Elle est âgée de 20 ans. Les trois femmes, elles vont ensuite du coup se servir de leur jeunesse pour berner les soldats allemands. Et elles vont parvenir à remplir des missions de très haute importance. Elles vont délivrer des documents top secrets ou même voler les pièces d'identité
en faisant quoi,
des soldats.
En les séduisant
Ok,
d'accord.
Ça, c'est la technique.
Ouais. Donc elles font les deux parties de la résistance.
Oui. Et du coup, après, les trois amies, donc les deux sœurs Overstegen et Annie Schaft, elles vont se lancer dans une traque aux nazis. Donc elles vont se rendre dans des bars pour séduire des nazis. Elles vont ensuite leur promettre une balade romantique en forêt où elles vont les tuer en forêt.
Ah, c'est romantique.
C'est romantique.
Voilà. Donc cette organisation, elle est vraiment efficace au point que le schéma, il va se répéter encore et encore et que le trio, il va prendre de plus en plus de place dans la résistance. Les Allemands, du coup, ils vont très vite voir les trois filles comme une très grande menace. Le nombre de cadavres qu'elles laissent derrière elles effraie le camp adverse qui va se mettre en tête de les arrêter. Il y a un moment, un ami des filles qui est blessé lors d'une attaque et qui va laisser échapper le nom d'Annie Shaft, ce qui fait qu'elle va devenir la principale recherchée.
Mince, son identité, elle a été révélée.
Voilà, mais elle se teint les cheveux, elle disparaît et elle va quand même continuer du coup les assassinats de soldats allemands ou même des collaborateurs néerlandais. Elles vont aussi saboter des installations militaires. Elles vont causer énormément de dégâts au clan adverse jusqu'en 1945. Peu de temps avant la fin des conflits, aux Pays-Bas, Annie Shaft, elle est capturée par les Allemands et emmenée pour un interrogatoire. Elle est torturée pendant plusieurs semaines. Le 17 avril 1945, donc 17 jours avant la fin de la guerre, des soldats la traînent dans les dunes et on lui tire dessus. Elle meurt sur le coup. Donc Truss et Freddy Overstegen, elles s'en sortent. Elles gagnent même en 2004. On leur remet même en 2014 la Croix de guerre.
Pour avoir tué des milliers de personnes, des dizaines de personnes. Ok, super.
Femmes. Oui, voilà. Et du coup, elles vont mourir en 2016 et en 2018 en laissant derrière
c'est
elles...
C'est super récent.
Mais j'avoue.
Et du coup, elles vont laisser derrière elles l'association qu'elles ont fait en l'honneur de Annie Shaft.
Et elles ont été enterrées où? Est-ce que tu sais?
Ah non, j'en ai aucune idée.
Ça aurait pu être intéressant de savoir.
Du coup, c'est quoi l'association qu'elles ont créée?
C'est une association, c'est vraiment en mémoire de leur amie. Et du coup, en fait, ils reversent des fonds, de ce que j'ai compris, aux familles qui ont été... aux familles juives, par exemple, qui ont perdu des membres de leur famille, etc.
Ok, intéressant.
C'est une grande femme, c'était super.
Et on parle de plein de guerrières aujourd'hui.
Ouais, au moins c'est intéressant. Surtout que c'était il n'y a pas longtemps Octobre Rose, donc il y a un petit lien.
Mais en vrai, ça fait peur. Genre, elles sont là, elles tuent tout le monde, mais au final, elles sont remerciées et tout. Parce
qu'elles ont été utiles en soi.
Mais oui, totalement.
Oui, c'est vrai que c'est moralement.
Par principe.
Oui, voilà.
Les femmes historiques comme ça, on devrait les. Affichées, genre vraiment, elles sont importantes.
C'est pour ça que je demandais s'il y avait eu un monument ou est-ce qu'elle était enterrée quelque part.
Il n'y a pas de monument et on n'en parle pas nous dans nos écoles parce qu'on ne fait pas forcément la résistance néerlandaise, mais après ils en parlent beaucoup aux Pays-Bas du coup.
Ah, okay.
Elles sont importantes là-bas.
Et super, merci beaucoup Tess, on aura appris plein de trucs. Restez avec nous, on écoute juste The Magic Key. Listen up. This sudden end to my days makes me wish that I changed my ways. Spent more time with the posse, 1T90, booty me. From up here, life seems so small. What's the meaning of it all? Missed the way it used to be, 1T90, booty me. Music's the odyssey, yeah. It's here for you, for me. Just listen, find the magic key. Listen up. 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 Music's the odyssey. Thank you.
listen up. Music's the odyssey.
Bête sur RCN.
Merci d'être sur RCN, vous écoutez L'âge bête. On va écouter justement tout de suite Antonin faire son quiz.
Voilà, voilà. Alors je vous ai annoncé hein, effectivement tout à l'heure qu'on allait rajouter une bande son de film qui est sorti il n'y a pas longtemps. Je vous propose de... Vous voulez la voir quand, ouais, justement
Vas-y, là, tout de suite, comme ça.
Lance-nous dedans.
Carrément.
Bon, ouais, t'en as parlé, alors là.
Vous êtes vraiment impatient.
Ouais.
Surtout les répliques de films. Mais c'est trop bien. Enfin, moi, c'est ce que je préfère.
Hein. Oh, mais ça se trouve, on va être nul.
Bah, justement, il va y avoir un truc du genre. Justement, il y aura un blind test, donc, la semaine prochaine. À la place, parce que c'est un peu une émission un peu spéciale, voilà, en thème d'Halloween et tout. Et comme c'est les vacances, sachant qu'on n'est pas là... Voilà,
ça va être chouette,
ça va être cool ça.
Voilà, ça va être différent. Ok, bah du coup je vous mets ça. Hein. Je pense que ça va vraiment pas durer longtemps. Hein.
Parfait, on t'écoute.
Ok, vas-y.
Vous avez capté, c'est bon.
Oh, ah, ouais, voilà, c'est Vice Versa. Incroyable. Okay, quelqu'un l'a vu le Vice Versa 2?
Ouais, ouais, je l'ai vu. J'ai pas trop aimé.
Oh non!
Moi j'ai préféré au premier.
Oh. Ah ouais?
Mon cœur se brise.
Moi j'ai hâte de voir la suite.
Mon cœur se brise.
Quelles émotions vont apparaître?
Moi aussi je trouvais ça hyper
Vice Versa 2, mais il est incroyable. Oui, comment tu peux le 3, ne pas
le
aimer?
Le 3, quand elle va encore plus grandir et qu'il y aura encore d'autres émotions.
Le 3,
non, ça sera jamais l'arrivée de nostalgie là.
De nostalgie. Ah, c'est vrai que ils ont pas exploité le potentiel de nostalgie.
Alors, en fait, c'est juste parce que pour rappeler que moi je pense que c'est ça, c'est que des fois tu commences à dire oh, et quand j'avais 6 ans, même quand on est jeune, on se dit ça et tu dis non, faut que j'arrête.
Mais c'est pour ça, juste après avoir regardé Vice Versa, j'imagine dans la tête des gens joie génial. Ou colère, c'était trop drôle. Franchement, j'ai adoré le film.
Ah ouais, je le trouvais aussi génial. Alors, est-ce que quelqu'un l'a aimé au point de le regarder deux fois?
Non, j'ai vu qu'une fois.
J'ai failli, honnêtement.
Tu l'as
j'ai
vu
regardé deux fois,
toi
ouais, en vacances, voilà quoi.
T'es très sensible,
non mais on te comprend parce
j'ai
que
regardé premier
le...
degré, deuxième degré, voilà. Pour tout vous dire, c'est ça. Hein. Parce que bon, au final, ça fait réfléchir. Il y a vraiment
ça
des
fait,
fois.
Ça fait,
ouais, c'est vrai.
Ça fait
réfléchir. Rester au cinéma, c'est le meilleur lieu.
Ouais, surtout qu'au cinéma, c'était vraiment dans le noir comme ça, c'était vraiment incroyable.
Voilà, donc je vais enchaîner donc avec les questions.
On t'écoute.
Alors cette question, bon, elle est un peu spéciale, vous allez la trouver bizarre. En cas d'accident, prévenez le SAMU avec le numéro 15, mais il y a un deuxième numéro, aussi valable pour les pompiers. Le pompier,
c'est... pas le 115, c'est le universel un peu plus.
C'est presque ça.
C'est
allez, 112. Y a quelques... 112, voilà,
112.
C'est ça.
Ah ouais, oui, c'est vrai.
J'ai eu l'idée en voyant une petite affiche.
C'est bon à savoir quand même.
Oui, c'est vrai,
c'est
totalement
inspiré.
Deuxième question, qui a créé Constantinople?
Constantin.
Ok. Alors, c'est ça Constantin, combien?
Oh.
Deux.
Premier, je sais pas.
Premier.
Bah, bon, bah, j'ai tenté un truc.
Et il a donné son nom
voilà,
à la ville.
Dans le contexte historique, voilà, c'était en fait pour faire la nouvelle Rome, pour fonder une autre partie de Rome et pouvoir donc gérer la partie occidentale de toute la puissance de Rome.
Et bah, ça marche.
Troisième question. Alors, voilà, on détourne sur la géographie. Là, va falloir réfléchir. Quelle ville est la plus proche de Marseille entre Milan ou Florence?
Milan. Parce que Florence est plus bas.
Ouais, j'aurais dit c'est Milan. Est-ce que c'est Milan?
Je veux un vote.
Un vote à main levée?
Mais Florence, genre, c'est au milieu de l'Italie, genre, c'est vraiment plus bas.
Ouais, Florence, c'est plus bas, je crois.
Ah ouais, mais c'est peut-être justement ça.
Qui vote Milan, qui vote Florence?
Un vol
d'oiseau.
Milan.
Moi, Milan aussi.
Bon, on va dire Milan.
Alors, quelle est la réponse?
Effectivement, c'est Milan. Alors, mais. Comment dire, c'est vraiment pas à beaucoup, hein. On n'imagine pas, mais tu regardes sur une carte, c'est à 1 cm, 2 cm, je sais pas. En fait, ça dépend de l'échelle de la carte, mais quand j'ai vu ça, c'était vraiment, il n'y avait rien de...
Eh ben, on saura au moins.
C'est vraiment la... Voilà.
Prévoyez vos prochaines vacances.
Ouais, on vous fera un petit guide pour vos prochaines vacances.
Très très bien, hein. C'est vraiment une ville sympa. Allez, donc quatrième question. Combien y a-t-il de tomes d'Astérix le Gaulois? Là maintenant.
Ah, mais
Astérix le Gaulois.
C'est des BD.
Mais les anciennes BD.
Oui.
Ah, mais il y en a plus d'une centaine.
Non, mais pour les anciennes, ça continue. Hein.
Mais Astérix le Gaulois, il n'y en a pas qu'un seul.
Non,
c'est Astérix Obélix, il y en a plein, non?
Si tu veux Astérix, mais en gros, c'est le titre de base.
Ah ouais?
Non, ils en ont fait au moins des centaines. Hein.
Mais là,
non, il y en a beaucoup moins que 100.
60?
Non, il y en a une quarantaine, je crois.
68?
Mais je croyais qu'il y en avait beaucoup.
Mais qui peut faire 100,
moi, je dis
une centaine de BD?
35, 34, 32.
Tu vas toutes les faire.
Moi, je dirais 40.
T'es pas loin, mais c'est plus haut.
Comme ça.
40?
C'est trop.
Une quarantaine?
41.
Voilà, 40, c'est 39.
J'ai été presque.
Ah.
Parfait.
Donc, le dernier, vous avez peut-être entendu parler, Astérix et l'Iris Blanc.
Ouais, je l'avais lu.
Ouais, je l'ai lu aussi.
Et alors, t'as bien aimé?
Ouais, ça va, c'était sympa.
Okay.
Sympa?
Ouais. Oui.
Oui, après, je trouve les derniers.
Je préfère les anciens.
Un peu moins bien. Ouais, franchement, je trouve
ça pas les... Ça reste bien quand même.
Il y a moins l'originalité des premiers, c'est sûr.
Ouais, c'est ça.
Ouais, parce que vraiment, les premiers, incroyables. Mais c'est quand même cool. Franchement, c'est toujours cool à lire. Prochaine question. Quels sont les 7 péchés capitaux? Alors là.
Oh là là.
Alors...
La gourmandise.
L'orgueil.
Okay. On a la gourmandise.
L'avarice.
L'orgueil, l'avarice.
La luxure.
La luxure. Il en reste 3. Allez, on a regardé vice versa. Qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans? Il est en rouge.
La colère.
La colère. Les deux autres, il n'y a pas. Hein.
Alors. Lequel on a oublié?
Comment dire? En fait, ça peut être lié à la gourmandise, si tu veux. Quand t'es gourmande.
Ah, le dédain, il n'y a pas ça?
T'as envie.
Non.
Voilà,
le désir.
C'est ça, ah, le désir.
Ah oui, c'est
l'envie.
Vrai. L'envie,
c'est ça. Ouais, t'as envie de manger un chocolat, voilà.
Exact, en plus.
Voilà, le dernier, je vous le dis tout de suite, la paresse.
Ah oui,
c'est
aussi.
Vrai.
Oui.
Tout simplement.
Eh ben, on saura, merci.
Voilà, et allez, dernière petite question. Quelles sont les deux religions exercées au Japon?
Le
christianisme.
Le christianisme.
Non.
Et le bouddhisme.
Le bouddhisme, j'allais dire.
Oui. Et il y a un autre, ça commence pareil qu'à un pays voisin.
Le chorisme.
Bien tenté.
Non,
tu nous dis
le shintoïste.
Oula, je l'avais pas du tout.
Je l'avais pas du tout.
Ouais.
Et bah merci Antonin, on aura appris plein de choses. On revient juste après, mais avant on écoute Hey Bro de Héloïse.
Assis devant le mur, regardant les vagues et réfléchir à cette colère, ramassant des algues. Je me pose un instant tout en hésitant. Pourquoi tant de haine, tant d'éloignement? J'aurais aimé être ton repère, j'en garde encore un doigt meurt.
Lâche bête sur RCN.
Il est 14h25, vous êtes sur RCN, on va écouter Margot qui va nous présenter les spécialités d'automne.
Oui, alors, l'automne, est-ce que vous savez c'est réputé pour quoi comme spécialité à peu près?
Pour les cinnamon rolls.
C'est quoi?
Qu'est-ce que c'est?
C'est des pâtisseries que t'enroules comme ça. Et c'est avec de la cannelle.
Ah, mais oui, si, ah, je connais, mon père, il en fait.
Mais de toute façon, tous les biscuits à la cannelle, c'est souvent en octobre, je crois.
Oui, la période de
les petits sables,
Noël.
Les petits sablés.
Je les rate tout le temps, mais c'est trop bon.
Et comme
c'est trop
plus
bon.
Légumes.
Légumes, ouais. Tout ce qui est citrouille, bah, toutes les soupes.
Les potions, le truc spaghetti.
Voilà, exactement. Donc la catégorie de citrouille, potiron, petit marron, ça s'appelle les courges.
Ah bah, je suis trop fort.
C'est la saison des courges, en gros. Et voilà, du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, pardon. Alors, le début de l'automne, c'est le moment de récolter aussi un peu tout ce qu'on a planté à la fin du printemps, genre les radis, les betteraves, les carottes, les navets. Quoique, en fait, je dis une bêtise, parce que les radis, comme les épinards, le chou, la salade et tout, ça peut se cultiver et se récolter à peu près à n'importe quelle période de l'année.
Toute l'année, je crois.
Donc, il y a quelques petits ingrédients comme ça, les petits pois aussi, les poireaux. Bah, c'est sympa à savoir qu'on peut en avoir à peu près toute l'année. On se fait un petit potager qui dure toute l'année.
Parfait.
C'est aussi, je sais pas si vous aimez bien la moutarde, genre les graines de moutarde, mais c'est la période idéale pour semer l'engrais de moutarde, genre.
On va lancer un sondage.
Okay. Je préfère le manger avec de la viande rouge.
Ouais, genre. Ça se mange un peu. Moi, j'aime pas la moutarde, perso.
Ça se mange avec tout, mais
en choucroute peut-être.
Et donc tu la plantes.
tu la plantes pendant
en période là, et tu la récoltes.
Ta petite graine de moutarde. À la fin de l'hiver, printemps.
À la fin de l'hiver,
ouais. Okay. Voilà, et du coup, c'est la saison des courges. Donc, vous m'avez dit le potiron, le potimarron, la citrouille. Est-ce que vous en connaissez deux, trois autres ou pas, genre à peu près?
Le navet.
Non, c'est pas une courge, le navet.
C'est quoi les légumes? Du coup, la courge spaghetti.
Courge spaghetti, ouais.
Tu nous en dis? On sèche un peu là.
Le pâtisson, ça fait pas la pâtisserie, mais c'est bizarre comme forme, c'est original.
Et c'est pareil, ça a un goût un peu...
Ouais, c'est à peu près pareil, mais c'est blanc, c'est un peu comme on dirait une géante fleur, toute... je sais pas comment dire, faut que vous regardiez.
Et ça s'appelle le pâtisson. Ok. Ouais.
Donc on les utilise... souvent pour préparer des soupes, des petites purées, des petits gratins ou des desserts comme la tarte à la citrouille par exemple. Je pense
que ça a l'air trop bon.
Vous avez déjà mangé? J'ai jamais goûté.
Ah, j'ai déjà goûté.
Ah, j'ai trop envie.
C'est trop bon.
Ou les carottes cake et tout, j'ai jamais goûté ça.
Ouais.
Je sais pas ce que ça donne.
Ah, c'est bon ça. Pareil, c'est la saison des champignons. Donc, je sais pas si vous en entendez parler, mais on va tous à la recherche des girolles et tout, cueillir. Enfin, moi, pas perso, mais il y en a beaucoup, les petits vieux, ils vont chercher leurs petits champignons. Donc, par exemple, il y a les cèpes aussi. Donc, par exemple, comme repas, on peut faire des risottos aux cèpes.
Ah, c'est j'en ai déjà entendu parler.
Donc voilà, c'est aussi la saison, on peut faire des petits plats mijotés, des petits ragoûts, je sais pas si
c'est réchauffant et c'est réconfortant.
Pour se réchauffer quand il commence
le
à faire froid.
Le pot-au-feu, le bœuf bourguignon,
la meilleure période.
La blanquette de veau et tout ça, voilà. Et aussi, bon alors ça j'aime un peu moins, mais les plats à base de gibier, genre c'est la saison de la chasse qui a commencé. Le sanglier, le chevreuil, tout ça, ils s'en servent pour
saison.
Faire des bons repas. Mais du coup, c'est à peu près tout sur les petites spécialités d'automne.
En vrai, ça a été super cool.
On pourra faire nos plats d'automne.
Exactement. Ouais, on pourra faire une petite
Pensez
playlist,
aux courges,
une petite
ça va avec
liste
tout.
D'automne.
Soupes, c'est incroyable. Ouais.
Et merci Margot, on a appris plein de trucs, c'était super intéressant. On vous laisse, du coup, on se rejoint mercredi prochain. Merci de nous avoir écoutés. Ça sera moi encore qui animerai. Merci tout le monde pour vos chroniques, c'était super sympa, on a appris plein de choses. Salut tout le monde.
Salut.